Vous écoutez l'épisode 169 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je vous parle de suspendre son jugement. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Savoir suspendre son jugement est l'une des compétences qui m'a été le plus utile dans ma vie professionnelle et dans de nombreuses situations. Que ce soit en tant que professeur des écoles, dans mes relations aux élèves, aux parents, aux collègues, ou bien dans la gestion des conflits ou des comportements, que ce soit en tant que formatrice vis-à-vis des personnes que j'accompagne, et encore récemment, c'est quelque chose qui m'a permis de répondre favorablement à une chouette proposition que j'aurais sûrement refusée si je m'étais arrêtée à ma première impression. Et dans cet épisode, je vais vous illustrer quelques situations professionnelles dans lesquelles il est fort utile de savoir suspendre son jugement et je vais décrypter ce qu'il y a derrière cette compétence. Comme une de mes missions en tant que coach est de vous accompagner dans le développement de vos habiletés comportementales et de vos compétences psychosociales, c'est vraiment un sujet qu'il me semble important d'aborder avec vous ici. Et à chaque fois que je vis une situation où je me dis « Ah ben voilà, encore une fois, j'ai bien fait de suspendre mon jugement », je me dis que vraiment, il faut que je vous en parle dans le podcast. Donc ça fait plusieurs fois dans ce podcast que j'évoque avec vous l'idée de filtre, de jugement, de façon de voir le monde qui viennent interférer dans notre communication et dans nos choix professionnels. Et tout ça correspond à notre carte du monde, à notre façon de voir les choses, d'envisager les choses à l'aune de ce que nous sommes, à l'aune de nos valeurs, à l'aune de nos représentations.
Et petit aparté, rajouté au montage, je vous en parle dans mon livre « Enseigner selon son profil ». Donc n'hésitez pas à aller le lire.
Ce qui fait que quand on a une situation à vivre, à jauger, à comprendre, on va le faire aussi avec parfois des a priori, parfois des représentations qui ne sont pas forcément objectives. Et l'idée de suspendre son jugement, d'être capable de suspendre son jugement, ce qui s'apprend, ce que moi j'ai appris à faire, qui devient selon moi un geste professionnel, en tout cas un geste conscient, c'est pour moi l'un de mes plus gros apprentissages professionnels. Et on pourrait résumer ça par « ne présume de rien ». Nous ne pouvons pas être sans jugement, nous avons forcément un jugement quand quelque chose se passe. Par contre, les jugements que nous faisons d'une situation sont, comme je vous le disais, liés à nos filtres, à notre expérience de vie, à notre façon de voir les choses. Et il est vraiment important de pouvoir en avoir conscience pour identifier ce qui vient de nous, de ce qui est factuel et qui pourrait être lu d'une autre façon, pour distinguer les deux. C'est ce qui va nous permettre souvent de pouvoir faire avancer certaines situations, de dénouer des conflits ou des quiproquos, de mieux accompagner les élèves ou les personnes qu'on accompagne. Et savoir suspendre son jugement, c'est savoir mettre en suspens son jugement, c'est-à-dire savoir le mettre de côté pour mieux être à l'écoute des faits, sans les interpréter avec nos filtres. Ça permet également de mieux être à l'écoute des autres et de leur réalité. C'est se laisser la possibilité de changer d'avis.
Ce qui n'est pas forcément très simple.
Donc ça va mobiliser plusieurs de nos fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, ce sont des processus mentaux que nous mobilisons pour gérer et pour réguler nos comportements, nos pensées et nos émotions. C'est tout ce qui se passe dans nos têtes quand nous devons faire face à une situation nouvelle ou inattendue ou qu'il faut résoudre un problème quel qu'il soit. Et quand, par exemple, on doit se retenir de pleurer ou de répondre ou de réagir, ou quand nous devons planifier des tâches pour atteindre un but, par exemple. Tout ça, ce sont les fonctions exécutives et je vous en ai parlé de manière assez détaillée dans l'épisode 163 que je vous invite à aller écouter. Et donc, parmi les fonctions exécutives, pour mon propos d'aujourd'hui, il y en a deux qui nous intéressent particulièrement. Ce sont la flexibilité cognitive et le contrôle de l'inhibition. Pour être en mesure de suspendre son jugement, il va falloir se voir penser et identifier que ce que nous pensons est un jugement, est une interprétation. Et ce n'est déjà juste ça, c'est pas toujours aisé. Ici, intervient déjà le contrôle de l'inhibition, c'est-à-dire que j'ai une pensée automatique et je dois en quelque sorte me retenir. Retenir cette pensée pour l'empêcher d'avoir un impact sur mes actions ou sur mes réactions. Donc je dois être consciente que j'ai cette pensée et je dois essayer de l'inhiber, de la mettre de côté pour pouvoir voir autre chose. Parfois, je vais me retenir de réagir, je vais me retenir de commenter ou de décider tout de suite. Et s'il s'agit vraiment de résister à la tentation ou au réflexe naturel de réagir suite à mon jugement. Donc je vais mettre mon jugement de côté. Et attendre d'avoir d'autres éléments ou bien de pouvoir aller chercher de la donnée, de la data, pour pouvoir étayer mes pensées, étayer mon esprit critique et voir ce que j'en fais et réévaluer ou évaluer et réévaluer la situation. Donc je vais aller poser des questions pour m'assurer de ma bonne compréhension ou pour voir comment l'autre a vu les choses. Et là, pour vraiment rendre efficace cette rétention de jugement, je vais vraiment devoir faire preuve de flexibilité cognitive. Et donc cette flexibilité cognitive, on va l'utiliser pour pouvoir changer d'avis ou pour s'efforcer de voir une situation sous différents aspects. Et c'est elle qui va nous permettre d'innover, de concevoir la situation sous un autre angle. En gros, elle va m'empêcher d'être bornée et obtuse. Elle va m'ouvrir le champ des possibles et c'est d'ailleurs une des compétences qu'on développe le plus en coaching. L'idée d'être capable de voir les choses autrement et d'imaginer de nouvelles possibilités. Donc je me souviens d'une fois en particulier où j'ai été vraiment bien heureuse de suspendre mon jugement et de savoir le faire et de l'avoir fait. C'était lors d'une visite de classe. Quand on enseigne et quand on forme, nous avons tous et toutes nos dadas, nos sujets de prédilection, nos attentes qui nous sont spécifiques qui vont au-delà des attendus institutionnels ou des attendus un peu communs. Il y a des choses avec lesquelles sur lesquelles on est plus vigilante. Et donc, il y a ces choses qu'on s'attend à voir ou ces choses qui nous chiffonnent quand on les voit dans des classes ou chez quelqu'un ou dans une pratique. Et ça peut être professionnel comme personnel. Et tout ça fait partie de nos filtres. Et il est intéressant de les connaître, ces filtres, de se connaître soi, pour pouvoir se rendre compte quand ils entrent en jeu, en quelque sorte. Donc j'arrive dans cette classe où je visite une enseignante qui a à peu près 4 années d'ancienneté. J'arrive donc avec mes filtres. Elle enseigne depuis 4 ans. Il y a certaines choses qui, dans ma tête, doivent déjà peut-être être en place. Elle sait que je viens. Donc je me dis que souvent, dans ces cas-là, les personnes ont fait un effort dont j'ai conscience. Et puis, c'est aussi une enseignante que j'ai déjà accompagnée en formation. Et donc, je m'attends. Là, je vous partage vraiment mes filtres. Je m'attends à ce qu'elle ait réinvesti certaines choses. Résultat, j'arrive dans la classe et j'ai intérieurement jugement sur jugement. Et plus je suis dans la classe, plus je fulmine intérieurement et ça commence à brouiller ma vision des choses. Sur le moment, je m'en rends pas compte. C'est simple. En fait, pendant toute la visite, je me persuade que la collègue, elle se fiche de moi, qu'elle se fiche des élèves, qu'elle en a rien à faire d'être là et que c'est inadmissible. Mais quand même, comme j'ai cette compétence, cette compétence que j'ai notamment développée grâce à ma formation de coach, de suspendre mon jugement et d'être dans l'ouverture et de me raisonner pour me dire, ben voilà, il y a peut-être quelque chose que je vois pas, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas identifié, donc je laisse toujours la place, cette place pour essayer de comprendre ce que moi je ne vois pas parce que je suis pas dans la tête des gens. Donc je me vois faire, je me vois penser au bout d'un moment, je me rends compte que je suis pas dans le bon état d'esprit et donc je réussis à switcher. Et je mets donc de côté mon jugement pour essayer d'aller voir ce qu'il se passe du point de vue de la collègue et pour pouvoir entendre ses préoccupations. Je sais, pour l'avoir expérimenté souvent, à chaque fois, que je ne sais pas ce qui est important pour l'autre et ce qui a motivé ses choix sans lui demander. Alors, comme dans tous mes entretiens, je laisse toujours la parole à l'autre en premier. Et puis, je suis prête à découvrir ce qui n'est pas visible. Je suis prête, et je sais, parce que je sais que je ne peux pas deviner ce qui se passe dans la tête de l'autre, même en étant très bonne en inférence. Et donc là, eh bien, la collègue, elle partage avec moi ses préoccupations. Et chaque irritant observé, enfin chaque chose qui m'a irritée pendant l'observation, était en fait une préoccupation pour elle. Et elle n'était pas du tout désinvolte, elle se moquait pas du tout de moi, elle avait juste besoin d'aide, elle avait juste besoin de clarification, elle avait besoin aussi d'éclairage sur certaines choses et elle avait besoin d'autorisation. Elle avait vraiment en fait conscience de chaque chose que j'avais pointée dans ma tête, mais elle n'était pas en mesure d'y répondre ni de trouver des solutions parce que ce qui me paraissait être une évidence à ce moment-là, ce qui me paraissait devoir être un prérequis avant que je lui parle, eh bien, ça n'était pas pour elle. Et je me souviens avoir écrit sur mes notes ce jour-là « Never assume ». Je me suis notée pour moi « Ne présume jamais de rien ». Ça fait déjà quelques années. Et depuis, je m'étais dit que voilà, fallait que j'en fasse un épisode et fallait que je puisse en parler et partager ça. Donc imaginez si j'étais restée sur ma première impression, que j'avais commencé l'entretien sans prendre de données, sans mettre en suspens mon jugement, eh bien il est fort probable que ma posture aurait été complètement en décalage et j'aurais probablement contrarié cette collègue et perdu sa confiance. D'ailleurs, ça m'est arrivé lors de mes premiers entretiens toute seule quand j'étais PEMF. Je me souviens du premier entretien, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas switché, je me suis pas vu faire, j'ai pas attendu de voir ce que la personne avait à me dire et c'était la première fois que je la rencontrais et ça s'est pas super bien passé, ça s'est même plutôt mal passé pour moi mais comme pour elle aussi, on a réussi quand même par la suite à renouer et à établir un lien de confiance mais ce premier entretien était franchement catastrophique. Donc cet exemple, il est vraiment déclinable avec les élèves. Je me souviens aussi d'une fois où je suis arrivée dans la cour et je vois un élève de CE2 donner un énorme et violent coup de pied à un autre, apparemment sans raison, si je m'arrête à mon jugement. C'était vraiment d'une telle violence que j'ai dû me retenir pour ne pas juste hurler sur l'élève et le punir sans ménagement. Mais cette fois-ci, j'ai décidé aussi de ne présumer de rien et de questionner. Et en fait, c'était un élève qui débordait régulièrement et subitement de violence. Donc, j'aurais pu juste me dire « Ah, encore lui, il n'en rate pas une », etc. Mais avant de lui hurler dessus, je me suis retenue et je lui ai demandé les raisons de son geste. Et il a d'abord été... Je revois son regard, je sais exactement où c'était, qui c'était, à quel endroit on était, dans cette cour toute rose... Je revois en fait son regard, il a été d'abord très étonné que je le sanctionne pas directement, comme s'il s'attendait de toute façon à ce que je lui hurle dessus par habitude. Et puis il m'a dit en fait qu'il n'avait pas supporté d'entendre cet autre élève, être méchant avec une petite élève de CP. Alors évidemment, son geste n'était pas du tout acceptable et il a été ensuite sanctionné, il a dû réparer, enfin je me souviens plus trop de ce qui s'est passé ensuite, mais par contre je me souviens que ce jour-là, j'ai fait sauter une étiquette. Cet enfant, en fait, il n'était pas violent gratuitement, il réagissait juste très 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 vivement à l'injustice et à la frustration. Et puis, il avait besoin qu'on l'aide à gérer ça, qu'on l'aide à trouver d'autres réactions et qu'on lui dise, ben voilà, donc on lui l'aide à faire la part des choses entre le fait que sa réaction, elle n'est pas acceptable, mais qu'on entend ce qui est important pour lui. Voilà, un exemple de cas où il est utile de résister et d'inhiber sa première réaction. Donc c'est le cas dans de nombreuses situations de gestion de conflits entre les élèves. Parfois, suspendre son jugement, suspendre nos a priori, ça permet de mieux aller comprendre les situations et de trouver des réponses plus appropriées. Autre situation, suspendre son jugement avant un rendez-vous avec des parents. Sur les parents, on a parfois le jugement facile, surtout quand ils ne font pas comme nous ferions, mais parfois, ben, ils ont des vies et des difficultés tellement éloignées des nôtres que nous ne pouvons même pas imaginer ce qui régit leur choix. Et suspendre son jugement avant un rendez-vous de parents, ça permet aussi de se mettre dans une posture d'ouverture, mais aussi parfois de ne pas angoisser. Il n'y a pas longtemps, dans un coaching, on a travaillé sur la préparation d'un rendez-vous de parents qui angoissait énormément ma coachée. Nous sommes juste allés défaire les jugements et les a priori qu'elle avait sur la famille et qui généraient vraiment beaucoup de peur chez elle, qui généraient des angoisses, alors que le rendez-vous, il avait lieu plusieurs semaines après à cause des vacances. Et en fait, ça lui a permis d'abord de se rassurer pendant les vacances et puis surtout de changer sa posture lors de l'entretien. Elle y est allée dans une posture d'écoute, dans une posture d'ouverture qui finalement lui ont permis de renouer le lien avec la famille. Et puis un autre exemple, l'année dernière, j'ai reçu un mail une fois pour une proposition de collaboration professionnelle. Et dans les documents qui m'ont été envoyés par la personne qui me faisait cette proposition, il y avait un propos sur des élèves qui m'a heurté, qui ne correspondait pas à ma façon de m'exprimer, de parler des élèves. Et du coup, j'ai failli refuser, donc rester sur mon premier jugement, sur ma première impression. Heureusement, ce jour-là, je n'étais pas seule. Je co-workais avec Fanny du compte Fanny les bonnes questions. Et c'est elle qui m'a aidée ce jour-là à faire le pas de côté. Elle m'a dit que peut-être que c'était une maladresse verbale, une blague mal tournée. Et donc, sur le moment, je n'ai pas réussi à inhiber toute seule ma réaction. J'ai vraiment eu besoin que Fanny me propose une alternative pour voir la situation autrement. Du coup, j'ai fini par accepter cette proposition qui, en plus, était vraiment chouette et ça aurait été dommage de la refuser. Et ça m'est encore arrivé récemment avec des représentations que je pouvais avoir où j'ai failli refuser des trucs chouettes alors que au final quand j'ai pris le temps de voir les choses, d'écouter ce que la personne avait à me dire, je me suis rendu compte que c'était en fait génial. Donc suspendre son jugement, ça requiert vraiment une vigilance de tous les instants. Je vous parlais également des jugements qu'on peut avoir vis-à-vis de nos collègues dans les épisodes 141 et 142, dans lesquels j'évoquais les conflits liés aux répartitions, par exemple, ou les petites phrases anodines qu'on peut dire à nos collègues, mais qui sont pas si anodines que ça. Et il y a de nombreuses situations entre collègues où nous gagnerions à suspendre notre jugement et à aller questionner pour comprendre avant de tirer des conclusions hâtives. Donc laissez-moi vous parler de l'exemple de cette collègue qui n'allait jamais en salle des maîtres, qui mangeait seule dans sa classe le midi et qui, après un mois dans sa nouvelle école, a commencé à faire jaser parce que les collègues ont commencé à penser qu'elle les prenait de haut, qu'elle s'excluait du groupe et finalement une certaine animosité a fini par s'installer. Sauf que cette collègue, elle n'a pas compris ce qui s'est passé parce qu'elle ne voyait pas où était le problème. C'était son mode de fonctionnement qui faisait que faire classe, ça lui prenait déjà énormément d'énergie et qu'en fait, elle cherchait à se ressourcer à chaque petit moment où elle pouvait se retrouver seule. Et donc, elle n'avait pas pu l'expliciter et personne n'était venu lui demander ce qui faisait qu'elle avait tel ou tel comportement qui questionnait. Donc là, c'était son cas à elle, mais en fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans le monde intérieur des autres personnes, dans leur vie privée, et ce qu'on pourrait parfois interpréter avec notre regard dans des comportements des autres n'a parfois rien à voir avec ce qu'il en est en réalité. Donc, peut-être que ces exemples restent quand même assez anecdotiques, mais j'espère qu'ils vous auront permis de voir et de jauger, de comprendre en quoi il est utile de savoir suspendre son jugement. Et peut-être que vous vous êtes découvert une compétence déjà acquise ou alors que vous avez envie de la développer et d'y prêter un petit peu plus attention. C'est pas évident, c'est pas facile et loin de moi l'idée d'être moralisatrice parce que nous sommes toutes et tous, et moi la première, en proie à nos jugements. L'idée c'est juste d'être conscient et de savoir de temps en temps ne plus avoir de jugements, mais en tout cas pouvoir les percevoir pour se dire ok, je mets de côté 2 secondes, 2 minutes, 2 jours, le temps de pouvoir me faire une autre idée. Et lorsque nous avons conscience des mécanismes, eh bien, je suis sûre que nous pouvons agir dessus. Allez, je vous donne un dernier exemple. Le fait de suspendre son jugement avant une formation que l'on doit suivre. Je ne l'ai pas vécu personnellement parce que j'aime tellement apprendre que je suis toujours contente d'aller en formation, quel que soit le sujet. Par contre, en tant que formatrice, je vois la différence entre les personnes qui arrivent dans une posture d'ouverture et celles qui sont coincées déjà dans leur jugement avant même d'avoir débuté la formation. C'est presque une question d'état d'esprit finalement. Si on arrive en formation en étant convaincu que ce sera nul, que le sujet est nul, qu'on n'apprendra rien, que c'est du vu et du revu, eh bien notre biais de confirmation nous fera voir que ce qui confirme déjà notre jugement. Alors que même si le sujet ne nous emballe pas, mais qu'on met ça de côté pour voir, juste pour voir et se laisser la chance d'être surpris ou surprise, et de voir ce qu'on peut en tirer, de voir ce que ça peut quand même nous apporter, de voir si on peut quand même passer un moment sympa, eh bien du coup, on vit les choses vraiment complètement autrement. Donc, suspendre son jugement, c'est inhiber ses réactions et se mettre dans un état d'esprit d'ouverture qui nous permette de considérer les choses autrement et qui nous permettent d'accéder à une vision plus large et de créer du lien avec les autres, d'être plus à l'écoute de l'autre. Et l'idée, c'est de se dire, ne présume de rien, ne suppose pas, attends de voir. Dernier point, apprendre à suspendre son jugement pour les autres permet aussi, finalement, de s'assouplir vis-à-vis de soi-même. Parce que quand on juge facilement les autres, on peut aussi avoir tendance à se juger soi-même assez facilement ou à craindre du coup que les autres ne nous jugent avec autant de facilité que nous avons à juger les autres. Donc, ce que je me dis, c'est que savoir suspendre son jugement, c'est une manière de s'assouplir vis-à-vis des autres, mais c'est donc aussi une manière de s'alléger de nos jugements vis-à-vis de nous-mêmes. Qu'en dites-vous ? Merci pour votre écoute. Après gestion de classe mode d'emploi, sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle « Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner » et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.